Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Aujourd'hui, levons les yeux vers la constellation du Cygne. Elle est aussi appelée la Croix du Nord, en référence à la constellation australe, la Croix du Sud. Elle semble posée sur la Voie lactée. Elle forme un grand oiseau qui migre vers le sud. On peut particulièrement l'admirer pendant l'été. Elle est composée d'étoiles assez brillantes, la plus connue étant Deneb, qui fait partie du grand triangle d'été. Alors même si Deneb est la moins brillante du triangle, une fois qu'on l'a repérée, elle nous guide vers la constellation du Cygne. Deneb, c'est en fait la queue du Cygne, ou le haut de la croix. Les ailes du Cygne se déploient presque parallèlement à la ligne Vega-Altair, qui sont les deux autres étoiles brillantes du triangle de l'été. Et puis elles se replient vers Deneb avec leur extrémité. Deneb, c'est une supergéante blanche de type spectral A2. Sa température de surface est de 8400 Kelvin. Elle fait environ 20 masses solaires pour 200 rayons solaires. C'est-à-dire que son rayon est à peu près le rayon de l'orbite terrestre autour du Soleil. Ça en fait l'une des plus grosses étoiles connues. Avec une magnitude absolue estimée entre -7,2 et -8,75, c'est une des étoiles les plus brillantes que l'on connaisse. Elle est à peu près 60 000 fois plus lumineuse que le Soleil. Alors revenons un petit peu sur la brillance des étoiles. Quand nous observons le ciel la nuit, nous voyons bien que les étoiles n'ont pas toutes la même luminosité. Certaines sont très brillantes, d'autres beaucoup plus faibles, d'autres encore ne nous apparaissent qu'après plusieurs minutes dans l'obscurité ou alors dans des lieux qui sont très préservés de la luminosité artificielle, et d'autres encore sont vraiment trop faibles et doivent être observées dans un instrument, une lunette ou un télescope. Car le but d'un télescope, c'est pas vraiment d'agrandir ce qu'on voit, mais plutôt de rassembler plus de lumière que ce que notre œil collecte naturellement. La brillance d'une étoile est appelée la magnitude. Prenons un petit temps pour bien expliquer ce terme qui est omniprésent en astronomie. En astronomie, la magnitude, c'est une mesure sans unité de la luminosité d'un objet céleste. C'est soit dans le spectre visible, mais ça peut aussi être utilisé dans le spectre infrarouge. C'est une détermination imprécise, mais systématique de la grandeur des objets qui a été introduite dès le 2e siècle avant Jésus-Christ. Alors on l'attribue à Hipparque ou à Ptolémée. D'ailleurs, le mot magnitude signifie taille, grandeur. En effet, plus un astre est brillant, comme Vega ou Sirius, plus il a l'air grand par rapport à une étoile faible. Or, vous le savez, les étoiles sont de taille variable, mais aussi de distance variable par rapport à la Terre. Mais par le passé, on n'avait que la luminosité apparente des étoiles pour les classer. C'est donc ce qui a été fait. On parlait alors de grandeur. Les étoiles les plus brillantes de notre ciel, Sirius, Arcturus, Vega, celles qui apparaissent les premières à la tombée de la nuit, appartenaient à la première grandeur. Les plus faibles étaient classées dans la sixième grandeur. Ce n'est que dans les années 1850 qu'un astronome britannique remarqua qu'un facteur 100 séparait la luminosité des étoiles de grandeur 1 avec celle des étoiles de sixième grandeur. Est alors venue l'idée d'une échelle logarithmique pour les classer. L'échelle des magnitudes qu'emploient aujourd'hui les astronomes correspond à ce qu'on nomme une échelle logarithmique inverse, c'est-à-dire que le passage d'une magnitude à l'autre se fait par la multiplication d'un facteur, dans lequel la magnitude c'est 2,5. Et le terme inverse signifie que plus la magnitude est petite, plus l'astre est lumineux. Il y a même des magnitudes négatives. Prenons un exemple. Une étoile de magnitude 1 sera 2,5 fois plus brillante qu'une étoile de magnitude 2. Notre Soleil a une magnitude apparente de -27. Ça, c'est sûr que dans le ciel, le jour, on ne peut pas le louper. Sirius, qui est l'étoile visible la plus brillante du ciel, a une magnitude de -1,46. Il existe aussi la magnitude absolue. Alors ça, c'est vraiment la luminosité qu'émet un objet, sa luminosité intrinsèque. Elle est définie comme étant égale à la magnitude apparente qu'aurait cet objet s'il était placé à une certaine distance de la Terre. C'est comme si on plaçait toutes les étoiles à la même distance de la Terre, c'est-à-dire 10 parsecs, et qu'on les comparait. Mais revenons à notre Deneb. En fait, on n'est pas très sûr de la distance à laquelle se trouve cette étoile par rapport à la Terre. Si on se base sur la parallaxe, souvenez-vous, je vous ai déjà parlé de cette méthode dans une précédente émission, on trouve alors une distance de 3200 années-lumière, mais avec une marge d'erreur de 60%. Pas très précis donc. Mais si on se base sur la luminosité de Deneb et sur l'analyse de son spectre, d'après les données recueillies depuis 1990 par le satellite européen Hipparcos, alors on affine cette distance. Finalement, la distance est de 1500 années-lumière, avec seulement 10% d'erreur. Deneb subit un très fort vent stellaire. Chaque année, cette étoile lui fait perdre une masse d'à peu près un millionième de masse solaire, ce qui correspond à un flux 100 000 fois plus puissant que celui de notre Soleil. Imaginez un peu les aurores boréales qu'on aurait si on avait été au voisinage de Deneb. Deneb enfin est une étoile variable. Sa luminosité varie à cause des pulsations non radiales, c'est-à-dire qu'il y a certaines parties de l'étoile qui vont se contracter, d'autres qui vont s'étendre, en faisant varier sa luminosité. Elle est même le prototype de ce genre d'étoiles qu'on appelle les types Alpha Cygni. Deneb fait donc partie de la constellation du Cygne. Le Cygne, c'est une constellation très nette, très régulière. Elle a été repérée depuis longtemps. Elle a donc tout un tas de mythologies associées à son image. Selon l'une des légendes, le dieu Zeus se serait déguisé en cygne pour séduire Léda, dont il eut pour enfants les Gémeaux, Castor et Pollux, et Hélène de Troie. Elle pourrait également représenter Orphée, métamorphosé en cygne après son assassinat et placé dans les cieux à côté de sa lyre. Enfin, on dit qu'un homme nommé Cycnus était l'amant ou le demi-frère du malheureux Phaéton. Après que Phaéton ait été foudroyé par Zeus pour avoir conduit les chevaux du soleil et fait brûler la terre, Cycnus se met à chercher son corps, désespérément, dans le fleuve Éridan, où il était tombé. Cycnus va plonger tant et tant de fois dans le fleuve que Zeus eut pitié de lui et le changea en oiseau aquatique, qui porte depuis son nom. Répertoriée par les astronomes grecs, cette constellation a été d'abord désignée sous le nom de l'oiseau. Elle fut également désignée sous le nom de la Croix de Sainte-Hélène par Julius Schiller en 1627, à une époque où on essayait de christianiser massivement toutes les constellations du ciel. D'ailleurs, la constellation de la Croix du Sud est contemporaine de ce nommage. Dans la mythologie chinoise, la constellation du Cygne héberge une fois par an le pont qui relie les amants Niulang et Qinyu. Mais ça, nous en reparlerons une prochaine fois, quand nous contemplerons la constellation de l'Aigle. Revenons à notre Cygne. Comme c'est une assez grande constellation, et qu'elle comprend un bout de voie lactée, le Cygne regorge de choses très intéressantes à observer, dont certaines sont visibles à l'œil nu. Commençons par la tête du Cygne. Elle s'appelle Albireo. Elle est aussi appelée par les astronomes Beta Cygni. Toutes les étoiles visibles sont cataloguées, nommées, et ce depuis le tout début du XVIIe siècle, lorsque Johann Bayer va répertorier les étoiles dans son livre Uranometria, le premier atlas céleste couvrant toute la sphère. Il est paru à Augsbourg en 1603, le tout début du XVIIe siècle donc. Le nommage consiste le plus souvent en une lettre grecque, suivie par le génitif du nom latin de la constellation, de l'étoile où il se trouve. Oui, car toutes les étoiles appartiennent à des constellations, car les constellations découpent le ciel en zones. Aucun objet céleste, donc, n'échappe à une constellation. Les étoiles d'une constellation sont nommées séquentiellement, en principe par luminosité décroissante, c'est-à-dire les étoiles les plus brillantes d'abord. Celles-là reçoivent une lettre grecque minuscule, mais l'alphabet grec n'a que 24 lettres. Lorsqu'une constellation possède plus de 24 étoiles, Johann Bayer a eu recours aux lettres de l'alphabet latin, d'abord le A majuscule, puis le B minuscule jusqu'au Z minuscule. Bayer n'a jamais eu besoin de dépasser le Z minuscule, auquel il n'a recours qu'une seule fois, pour désigner Z Herculis. Mais lorsque la désignation de Bayer sera étendue ultérieurement à d'autres étoiles, en particulier avec l'arrivée de meilleurs engins d'observation, des lettres latines majuscules seront utilisées jusqu'au Q. Il y a cependant des exceptions à cette classification. Par exemple, dans le Cygne, Albireo Beta Cygni n'est pas la deuxième la plus brillante. Mais à l'époque de Bayer, comme elle était connue, identifiée et nommée, elle a eu donc une lettre plus avancée. Revenons à Albireo, c'est la tête du Cygne. Pas forcément très brillante, elle se révèle quand même très intéressante quand on a un instrument, une lunette ou un télescope. Pas forcément besoin d'un très gros instrument pour admirer l'étoile du bec. Si on la grossit à peu près 30 fois, Albireo révèle sa vraie nature. C'est une étoile double. Deux étoiles séparées de 34 secondes d'arc. En gros, c'est le diamètre apparent de Jupiter. En fait, il s'agit d'un faux système binaire. Les mesures effectuées par le satellite Gaïa ont révélé que les deux astres sont séparés d'environ 60 années-lumière et qu'ils n'ont pas de lien gravitationnel. Il existe de nombreuses étoiles doubles ou multiples dans le ciel. Mais ce couple-là a la particularité de présenter une différence de couleur très nette. La plus brillante, Albireo A de magnitude 3, tire sur le jaune, alors que sa voisine, Albireo B de magnitude 5, est plutôt bleutée. Elle est donc plus chaude et moins brillante. Cette particularité leur a valu les surnoms de Topaz et Saphir. Un autre système double est visible dans le Cygne. Il s'agit de 30 et 31 Cygni. À l'œil nu, elles peuvent être distinguées si on a vraiment une bonne vue, et avec une paire de jumelles, 31 Cygni devient double à son tour. Ce trio dévoile un magnifique contraste de couleurs. L'étoile la plus brillante de 31 Cygni est légèrement jaune, sa compagne légèrement bleutée, alors que 30 Cygni brille d'un éclat blanc acier. La perspective joue une nouvelle fois son rôle, puisque 31 Cygni est à 1500 années-lumière de la Terre, alors que 30 Cygni est moitié plus proche de nous. La constellation du Cygne est comme posée sur la Voie lactée. Par une nuit sans lune et sans pollution lumineuse, vous pourrez observer ce ruban d'étoiles de toute taille qui parcourt le ciel. Mais alors pourquoi y a-t-il autant d'étoiles dans cette zone ? C'est tout simplement parce que la Voie lactée, en fait, c'est notre galaxie que l'on observe. Un endroit bien plus dense en étoiles et en objets stellaires que le reste de l'univers proche. Et quand on l'observe par la tranche, on voit vraiment beaucoup d'objets. Vous le savez certainement, l'univers est né à la suite d'une incroyable explosion que l'on appelle le Big Bang. L'histoire des connaissances qui nous ont amenés à cette théorie est passionnante, mais un petit peu longue à raconter, donc ce sera pour une autre fois. Intéressons-nous aujourd'hui juste à l'histoire de l'univers. Le Big Bang a eu lieu il y a à peu près 14 milliards d'années. À ce moment-là, et pendant près de 300 000 ans, l'univers est un peu comme une soupe de rayonnement très énergétique et de particules de matière, protons, neutrons, électrons, qui s'annihilent avec la même quantité d'antimatière. Les premiers noyaux se forment par la réunion de protons et de neutrons. C'est la nucléosynthèse primordiale. Les photons, eux, restent prisonniers car ils interagissent en permanence avec les particules de la matière. La lumière est alors prisonnière, ça veut dire qu'on ne voit rien. Après 300 000 ans, la température de l'univers a un petit peu baissé, les premiers atomes se forment. Des électrons se combinent avec les noyaux déjà formés. Et toute cette matière va peu à peu s'organiser, se regrouper. En se regroupant, ils vont former les premières étoiles. C'est ce qu'on appelle l'aube cosmique. Cette année, une galaxie appelée HD1 a été observée tellement loin que la lumière observée semble avoir été émise 300 000 années après le Big Bang. Ce serait donc parmi les premières lumières de l'univers. Les atomes d'hydrogène vont donc s'attirer les uns les autres, puis se regrouper en très très grand nombre pour former les étoiles. Dans les plus grosses de ces étoiles, d'autres atomes vont faire leur apparition grâce au mécanisme de fusion nucléaire. On va avoir de l'hélium, de l'oxygène, du sodium, du magnésium, tous les 26 atomes les plus légers de l'univers jusqu'au fer. Tous ceux-là sont créés dans les étoiles. L'oxygène que vous respirez, le calcium de vos os, le magnésium dans vos chocs à pic, tout ça a été créé dans les étoiles. Nous sommes donc, nous et tout le monde qui nous entoure, des descendants des poussières d'étoiles.